Une autre traduction dira « Mettez votre salut en œuvre, en action. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Amen. » J'ai volontairement mis en rouge « Vous brillez comme des flambeaux dans une génération perverse et corrompue, dans une génération douloureuse, difficile, pénible. Vous brillez. » Alors, si vous brillez, vous le verrez plusieurs fois écrit sur les autres diapos, c'est presque un impératif ou en tous les cas une injonction. Je voudrais tellement que ce soit une réalité pour chacun de nous. J'ai envie de dire, frères et sœurs, puisque vous êtes appelés à briller, alors brillez, brillez, brillez par votre engagement et votre témoignage dans votre marche avec Dieu. Vous savez très bien que notre monde a besoin de lumière. Et aujourd'hui, c'est un jour particulier, beaucoup trépignent d'impatience, ont hâte d'être à ce soir 20h, d'autres pas du tout. Le pays est un petit peu dans un drôle d'état en ce moment, mais le monde est fait ainsi et le monde s'engage dans des voies quelquefois étonnantes, d'autres fois très engageantes, d'autres fois très inquiétantes. En tous les cas, quelque chose changera certainement en France, puisque ce sont des élections, et régulièrement, quand il y a des élections, des choses changent. La réalité de tout cela, c'est que tout ce que l'on a vu et entendu depuis des mois et des mois nous montre que nous sommes dans un pays qui est très, très, très en difficulté dans tous les domaines. On ne sait pas qui aura la meilleure solution, qui aura la moins pire des solutions, on ne sait pas. Et les gens sont un petit peu inquiets, on peut quand même le reconnaître. Les gens ont besoin d'y voir un petit peu plus clair, les gens ont besoin de repères. Qu'est-ce que le monde peut offrir au monde? Qu'est-ce que les hommes peuvent offrir à leurs semblables? Je n'ai pas l'impression que ce soit bien facile à dire, bien clair, bien pratique à offrir. Mais nous, l'Église, nous avons quelque chose de bon à offrir quand même. Nous avons quelque chose à donner. Alors, la seule remarque que nous pouvons faire, c'est que puisque nous sommes dans un monde qui a besoin de lumière, eh bien, brillons comme des flambeaux dans le monde. Et à cela, évidemment, deux raisons, parce que nous défendons la vérité et parce que nous avons un message qui est le message de l'Évangile, et on peut favoriser le message de l'Évangile en parlant autour de soi, en répandant l'Évangile autour de nous. On peut offrir au monde un meilleur espoir, on peut offrir au monde un message d'espoir et certainement un jour nouveau. Et je crois que c'est tellement, tellement nécessaire. Alors, l'Église est composée de héros totalement inconnus. On va s'arrêter d'ailleurs sur des listes comme cela, sur des noms. Cette fois-ci, ils ne sont pas inconnus, puisque je vais vous donner les noms de ces gens-là pour la plupart. Mais je m'aperçois qu'il y a eu de vaillants héros. Il y a eu des hommes, des femmes qui n'ont pas été particulièrement vaillants, mais qui ont été importants, qui ont marqué leur temps. Parce que le fait qu'ils étaient là, à ce moment-là, était vraiment utile. Et je crois que le monde n'a avancé que parce qu'il y a eu régulièrement des héros. On peut faire un parallèle, d'ailleurs, sans parler de foi et de Bible, mais d'action chrétienne. On peut parler de héros que la terre a portés. Il y en a quelques-uns comme cela. Cet homme, beaucoup disent qu'il n'a pas été reconnu comme il devrait. Alan Turing, c'était un mathématicien. Et cet homme a vécu au début du 20e, jusqu'au milieu du 20e, et il a inventé une espèce de grosse machine avec des tas de rouleaux qui tournaient, crantaient, etc. Et on sait, cet homme a fait quelque chose d'extraordinaire, parce que cet homme a été capable de décoder cette fameuse machine du régime nazi, la fameuse Enigma, qui envoyait des messages codés. Et on estime que parce qu'il a réussi à décoder cette machine-là, il a raccourci la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, de 2 ans. Et il a totalement désorganisé la résistance du régime nazi et il a épargné la vie, c'est ce qu'on estime, à 14 millions de personnes. On se demande s'il ne devrait pas y avoir une rue, une place dans toute l'Europe hein, pour un homme comme cela. Mais ce n'est pas un illustre inconnu, mais je ne suis pas persuadé que vous le connaissiez beaucoup, cet homme-là. Et pourtant, il a quand même marqué l'histoire. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. D'un côté un peu plus, beaucoup plus moderne, je ne suis pas persuadé que vous connaissez cet homme-là, Philippe Martinez. C'est un marin breton. Il est d'aujourd'hui. Hein. C'est un marin breton. Il est plus spécialement de la région de Vannes. Et le témoignage de cet homme est assez particulier parce qu'il travaille comme marin, il travaille pour un consortium international et notamment avec un gros cargo navire, il va ravitailler des plateformes en mer. Et son circuit, c'est la Méditerranée et particulièrement au large de la Libye. Et cet homme, en 2014, en un mois, a sauvé la vie à 1800 migrants. 1800 en un mois. Il a fait 14 sauvetages les uns après les autres. Il a récupéré des embarcations comme ça qui étaient totalement à la dérive. 1840 précisément qui ont été sauvés de la noyade ou de la perdition. On a rarement entendu parler de cet homme-là. Alors, il a été interviewé par Ouest France, par Europe 1, etc. On a parlé de lui et on lui a posé des questions. Pourquoi est-ce qu'il avait fait cela, etc. Mais cet homme, ben, c'est un humain, c'est quelqu'un de normal. Donc, on ne peut pas laisser des gens mourir ainsi. J'entendais à l'actualité, d'ailleurs, il me semble que c'est hier que j'ai entendu ça. Maintenant, vous avez des rançonneurs. Vous avez des gens avec des bateaux rapides qui vont près des embarcations à la dérive, qui bloquent ces embarcations de migrants. Ils dépouillent littéralement le peu qu'ils ont. Ils leur enlèvent le moteur et ils les laissent comme ça au milieu de la Méditerranée. C'est les charognards, hein ? Les charognards. Et combien il y en a comme ça ? On estime que rien que pour l'année 2016, 180 000 migrants ont traversé la Méditerranée et au moins 5 000. Sont morts, noyés ou disparus. C'est effrayant quand même. On estime que depuis 2013, pratiquement un demi-million de personnes ont navigué sur la Méditerranée. Et quand on interrogeait cet homme-là, cet homme disait « Mais tous ceux qui montent sur ces bateaux, ils ne savent pas. Ils pensent que dans 2 heures, ils sont à Lampedusa. On leur dit que dans 2 heures, ils y sont. » Alors qu'il dit, Lampedusa, c'est un petit caillou sur la Méditerranée. Si vous vous trompez d'un degré au départ, vous passez à côté, vous ne voyez même pas l'île. Vous ne la voyez même pas. Cet homme, c'est un héros, mais un illustre inconnu, finalement. Hein, puisque, ben voilà, on ne parlera pas de lui. Et des gens comme lui, il y en a certainement des dizaines, heureusement, et peut-être même des centaines. On a dit que la Méditerranée, c'était devenu le plus grand cimetière de l'Europe. C'est certainement vrai, malheureusement. Alors voilà, des illustres inconnus, des gens qui, finalement, ont été des héros en leur temps, ont marqué leur temps par ce qu'ils ont fait, sans aucun regret, ils l'ont fait. Et je me dis que nous, Église de Jésus-Christ, nous pouvons briller dans le monde. Je ne sais pas si l'on se rend compte de ce que ça peut représenter. Dans un monde qui s'obscurcit de plus en plus, dans un monde qui a de moins en moins de joie, de bonheur, d'espérance, nous, on a des opportunités. Alors, on va s'arrêter sur ce que j'ai appelé les indispensables. J'ai rajouté précieux parce que si on est indispensable, c'est qu'on est précieux. Mais j'ai pensé à une autre catégorie de personnes que l'on pourrait considérer uniquement comme des précieux, mais s'ils sont précieux, ils sont forcément indispensables. Voilà pourquoi j'ai rajouté à chaque fois la phrase en inversant. Et puis, certains qui ont été carrément des libérateurs, d'autres des vaillants. On en trouve quelques-uns, ce que l'on pourrait appeler les héros de Dieu. Si je vous parle de Othniel et Shamgar, ça vous parlera certainement. Mais si je vous parle de Jeanne et de Suzanne, ça vous dira peut-être moins facilement quelque chose. Dorcas, vous connaissez peut-être, Phébé aussi, Onésiphore certainement. Et puis il y a toute une liste, et on terminera avec cela, des héros de David. C'est assez impressionnant quand même. Alors on va s'arrêter sur ces quelques figures en vous rappelant cette phrase que j'ai voulu noter, c'est que nul d'entre nous n'est indispensable. C'est une évidence. On n'est pas indispensable. parce que finalement, le monde a tourné sans nous, il tournera sans nous. Et l'Église, elle a fonctionné avant nous, elle fonctionnera après nous. C'est une évidence. Mais j'aime bien me dire quand même que si nul n'est indispensable, on reste tous irremplaçables, parce qu'il n'y en a pas deux comme vous. Non ? Il n'y en a pas deux comme vous. Donc ce que vous êtes et ce que vous faites, ça, ce sera irremplaçable. Ce que vous ne ferez plus, un autre le fera. Dans ce sens, oui. Mais en termes de personnalité, en termes de personne, non. Il me semble que beaucoup sont demeurés irremplaçables, même si personne n'était indispensable. D'ailleurs, vous vous souvenez ce qu'il est dit dans l'évangile de Luc ? C'est Jésus qui a dit cela, certainement pour nous permettre de garder humilité en toute chose. Il est rappelé dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, que lorsque nous avons accompli quelque chose, quoi que nous ayons fait, nous ne devons pas imaginer, chapitre 17, nous ne devons pas imaginer que nous avons fait quelque chose d'exceptionnel. Qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux lui dira quand il revient des champs, approche vite, mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et me sers jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, après cela, toi tu mangeras et boiras. C'est un serviteur après tout. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné ? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Je vous rappelle quand même, en relisant le texte, lorsque l'on aura fait tout ce que Dieu nous aura demandé de faire, ce n'est pas Dieu qui nous dira « tu es parfaitement inutile ». Mais nous avons intérêt à nous dire à nous-mêmes « quoi que j'ai fait, je reste quelqu'un de pas si formidable que cela ». Ça, c'est pour nous garder dans l'humilité. Ce n'est pas Dieu qui va mépriser ce que l'on fait. Hein. Dites-vous vous-même, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail, Hébreux chapitre 6. Donc, il n'oubliera jamais. Alors, frères et sœurs, béni soit Dieu, parce que nous ne sommes pas indispensables, mais nous sommes tous totalement irremplaçables. Alors, j'en viens à ceux qui ont servi, peut-être de la façon la plus basique qui soit. Dans l'évangile de Luc, précisément, c'est ce que je vous ai donné comme indication tout à l'heure. Regardez avec moi Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, verset 1er. Luc chapitre 8 et verset 1er. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Deux points. Marie de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, Suzanne, et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Ça, c'est un service qui était... pas difficile à faire. Faire à manger tous les jours, par exemple, pour voir à ce qu'on ait à manger. Trouver un endroit où on va s'arrêter dans un village, pendant que Jésus va s'arrêter dans un village, que la foule va s'approcher et qu'il va commencer à enseigner. Tout le monde voulait rester là, évidemment. Mais certains ont dû dire, bon, nous, on va aller chercher à manger. Hein. Mais tu veux pas profiter de la réunion ? Oui, je voudrais. Mais je ne peux pas, il faut, sinon si on profite tous de la réunion, on mange quoi tout à l'heure ? Donc je rends la chose très imagée pour vous, hein. Mais voyez, je m'aperçois que personne dans l'Église ne peut pas faire quelque chose de profondément basique, personne. Si Dieu vous a donné des richesses, parce que parmi ces gens-là, vous avez vu cette femme Jeanne qui était... la femme de Chusa qui était l'intendant d'Hérode. Je pense qu'il avait une bonne place, celui-là. Je pense qu'il avait peut-être quelques moyens. Suzanne, on ne sait pas qui c'est, hein. Et plusieurs autres, mais des gens qui avaient des moyens, qui avaient de l'argent, qui avaient des possibilités, ben, elles ont décidé de nourrir la troupe, hein. Et c'était au moins 13 repas, évidemment au bas mot, tous les jours, mais c'était plus que 13 avec tous ceux qui accompagnaient. Il faut faire à manger pour 20, 25, 30 personnes tout le temps. Ça a duré pendant des années. Ça a duré pendant des années. Quand vous allez faire un service à la colo, à la colo de Gap, là, depuis de nombreuses années, alors je ne sais pas si ça continue encore comme ça, la famille Giraudel n'est pas là pour confirmer, mais pendant des années, le jeudi, c'était le jour de repos de ceux qui étaient en cuisine, etc., pour qu'ils aient un jour de repos par semaine. Donc le jeudi, c'était sandwich, pour que tout le monde ait du repos. Je ne sais pas si à cette époque-là, on a dit à Jeanne et à Suzanne, 35 heures par semaine, pas plus, Donc, vous avez droit à un ou deux jours de repos par semaine. Eh bien, ils se débrouilleront, ils iront eux-mêmes chercher à manger. Je ne suis pas bien sûr. Ça a été du non-stop. Peut-être qu'elles ne l'ont pas toutes fait tout le temps. Mais quand l'une partait, quelqu'un d'autre arrivait. Quand l'un n'était pas là, quelqu'un d'autre était disponible. Pourquoi je vous dis cela? Parce que dans la première épître à Timothée, c'est un texte qui est écrit. Donc, il doit nous parler tout de même, ce texte-là. Et il est dit dans 1 Timothée, chapitre 6, au verset 17, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie éternelle. » Frères et sœurs, nos talents ou nos capacités n'ont de sens que si nous les mettons au service de Dieu. Il n'y a que ça de vrai. Béni soit Dieu, il y a des gens qui sont arrivés à Dieu, ils avaient déjà bien vécu, mais c'était des gens excessivement talentueux. Eh bien, quand ils sont devenus chrétiens, leur vie ne s'est pas arrêtée. Ils ont continué. Et leur talent, ils l'ont mis aussi au service de Dieu. Leur capacité. Jérémie ne vous a pas dit, mais il y a eu quelque chose d'assez incroyable durant ce camp. Un frère, lorsque le pasteur Laurent Altman est passé dans une église, un frère de cette église a eu à cœur de faire quelque chose pour ses adolescents qui allaient se réunir. Et cet homme, il n'était pas spécialement engagé dans l'animation, etc. Donc, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Bien, il a eu l'idée de mettre au service de la colo, il ne savait pas trop comment au départ, mais un projet. Et cet homme a une entreprise, il conduit des hélicoptères. Et il est à son compte. Il a dit, je vais faire une chose, j'offre un baptême de l'air à tous les ados qui voudront. Baptême de l'air en hélico, c'est pas mal quand même. Le gars, il est venu, donc ils se sont arrangés pour trouver le terrain, etc. Ils sont venus à 5, il a pris tous les gars de son entreprise, et il a fait à peu près 300 baptêmes de l'air en deux jours. Ils étaient au moins deux pilotes d'hélicoptère. Il a offert ça, je ne sais pas si vous savez ce que ça coûte, un baptême de l'air en hélico, ça coûte cher, Il a offert ça à 300 ados. Vous rendez compte? À peu près 300 ados. Il y a même eu d'autres personnes que des ados, peut-être. Ouais. Enfin, j'imagine. Et il n'a rien demandé. Ça a dû coûter des milliers d'euros, ne serait-ce que le kérosène, etc. Enfin, bref. Et puis payer les ouvriers. Enfin, bref. C'est exceptionnel. Bon, le gars, il a eu l'idée de faire ça. Parce que c'est son métier. Et il ne savait pas trop comment faire. Il ne savait pas quoi faire. Mais j'ai trouvé l'idée géniale, quand même. Non? Génial. D'ailleurs, au départ, il avait eu cette idée, il avait été voir Laurent Altman en lui disant « J'ai à cœur de faire quelque chose, je pourrais proposer un baptême de l'air juste 10 euros par personne, 10 euros par ado. » Et là, le pasteur lui a dit « Mais on ne peut pas, le budget, il est serré, quoi, c'est totalement impossible. » Le gars, il s'est dit « Tant pis, je le fais quand même. » Enfin, je trouve ça extraordinaire, moi. Je trouve ça extraordinaire. Un gars qui a fait avec les capacités qu'il avait et les talents qu'il avait. Donc, d'autres manières, on peut mettre des tas de choses au service de Dieu comme des talents. Lorsque nous étions dans le Var, à Toulon, il y avait une sœur qui était une artiste peintre et qui exposait. elle avait dans des galeries d'art. Hein. Et donc, tout au long de l'année, elle proposait des cours de peinture à ceux qui voulaient. Et une fois par an, il faisait un vernissage. Il proposait toutes ces toiles qui avaient été faites. Et les toiles étaient à la vente et tout partait pour une œuvre caritative. Voilà, quelqu'un qui a du talent, qui est capable de faire des choses. Vous ne croyez pas qu'entre tous, on a tous une botte secrète, quelque chose qu'on est capable de faire, des choses que l'on sait faire. Finalement, j'insiste, je crois que nos talents et nos capacités n'ont de sens que si nous les mettons au service de Dieu. Il est évident que personne n'a tout, mais je crois aussi que c'est tout aussi évident que personne n'a rien. Personne n'a tout, mais personne n'a rien, ce n'est pas possible. Alors, quoi que vous fassiez, je crois que vous ne passerez pas inaperçu, si vous voulez, dans le radar divin. Peut-être que l'on fait des choses discrètement, par derrière. Ça ne se voit pas, mais Dieu le voit. Et c'est pour la gloire de Dieu qu'on le fait. Vous vous souvenez de ces textes que l'on trouve dans le Nouveau Testament? Je pense aux Colossiens, je pense aux Corinthiens. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Quoi que vous fassiez, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Alors pour moi, Jeanne, Suzanne et bien d'autres, c'est ce qu'elles ont fait. Elles ont pris soin, elles assistaient Jésus de leur bien, Jésus et les apôtres de leur bien. Ils avaient tout quitté, Pierre et les autres qui travaillaient, qui avaient des métiers. Ils ont tout quitté pour suivre Jésus. Eh bien, ils ont été honorés dans ce sens-là. Après, évidemment, dans l'organisation de l'Église, il est bien précisé que celui qui prêche l'Évangile doit vivre de l'Évangile. Par ailleurs, il est dit que celui qui refuse de travailler ne mangera pas non plus. Donc, il y a un équilibre à trouver entre paresse, profiter, et puis tout simplement honorer et servir. Évidemment, il y a un équilibre en tout cela. Mais grâce à Dieu, certains ont servi. Alors, pardon d'avoir apporté cela comme un service basique. Ce n'est pas du tout méprisant la chose, mais c'est pour dire que c'est la première chose qu'il faut mettre en place, ce qui est élémentaire. On a des capacités, on a des talents, tout peut être mis au service de Dieu pour que son nom soit glorifié. Et puis, certains se sont exposés davantage. Ce n'est pas toujours évident de s'exposer. Alors, du service le plus basique au plus exposé, c'est le cas, par exemple, de Dorcas ou de Phébé ou de Onésiphore, comme je vous en parlais. On peut relire ces passages, si vous voulez, dans Actes chapitre 9, Actes chapitre 9, à partir du verset 36. Actes chapitre 9, verset 36. Il y avait à Joppé, à Jaffa, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Et comme Lydde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et, ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les croyants et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. On pourrait parler de Phébé. Je vous le lis, Romains chapitre 16, verset 1er. Je vous recommande Phébé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses dont elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Un juste retour des choses. Et puis, Onésiphore, dans 2 Timothée, si vous voulez noter et suivre avec moi, 2 Timothée, chapitre 1er, verset 16. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes, au contraire. Lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Moi, j'aimerais bien m'appeler Onésiphore. Bon, ce n'est pas très actuel, c'est vrai. Mais ce serait pas mal quand même. Il m'a rendu beaucoup de services. N'est-il pas vrai qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ? Mais vous reconnaissez que là, ils se sont exposés quand même. L'apôtre Paul dira d'autres, ils ont exposé leur tête, ils ont exposé leur vie. Dans quelle mesure il a fallu s'engager, et s'engager réellement et s'engager beaucoup plus ? Alors certains, finalement, préfèrent rester totalement dans l'ombre, mais font un travail irremplaçable. Indispensable également, mais d'autres pourraient le faire, mais là, c'est irremplaçable. Et puis d'autres ont été beaucoup plus engagés. Je pense à tout ce qui est du domaine de projets dits humanitaires. D'ailleurs, un chrétien qui n'est pas humain, c'est quoi ? Un chrétien, il est humain, donc il fait de l'humanitaire. On ne peut pas faire autrement que de faire de l'humanitaire. D'ailleurs, ça a été là aussi source de bénédiction, je pense à l'Angleterre notamment. Quand, dans les années 1800, cet homme, William Booth, a décidé de prendre soin de la misère des Londoniens. Il a été dans les quartiers malfamés de Londres, c'était épouvantable. Et il a décidé de lever une armée pour le ciel, la fameuse armée du salut. Et soupe, savon, salut. Il a été, avec ses trois initiales, apporter du réconfort à ces gens-là. Et ça a été un temps de réveil. Il y a eu énormément de gens qui ont découvert Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est en parallèle avec Ésaïe 58, le vrai jeûne, donner à manger à celui qui est dans la détresse, prendre soin du malheureux, s'occuper de celui qui est en détresse. Je vous rappellerai Matthieu chapitre 25, quand Jésus dira ceci, Matthieu chapitre 25 et à partir du verset 34, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume, qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim ? T'avons-nous donné à manger ou avoir soif ? Et t'avons-nous donné à boire ? Quand t'avons-nous vu étranger ? Et t'avons-nous recueilli ou nu ? Et t'avons-nous vêtu ? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison ? Et sommes-nous allés vers toi ? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Alors on peut s'exposer davantage des pasteurs, des églises dans la région nord, du côté de Calais, se sont exposés. Je lisais vendredi à la réunion de prière le rapport du pasteur Després qui explique être passé devant le camp en feu, le fameux camp de Grande-Synthe, qui était totalement en feu il y a un mois de ça, à minuit, parce qu'il venait de mettre des Iraniens à l'abri, parce qu'ils étaient menacés dans le camp. Il repasse à minuit, ben il ne rentre pas à la maison, il va dans le camp. Et là encore, il voit qu'il y a une grosse tension. Il en récupère d'autres. Et le lendemain, ils ont préparé 300 repas et le surlendemain, 400 repas pour aider ces pauvres gens. Mais qu'est-ce que vous voulez faire de moins ? De moins ? Et ça, c'est un exemple. Mais aujourd'hui, je crois que la détresse, elle est devant nos yeux. On n'a pas besoin d'ouvrir les yeux. Elle y est là devant nos yeux. On n'a pas besoin d'aller la chercher. Elle y est. Elle y est. C'est malheureusement une évidence. Alors on peut s'exposer, certainement, comme ces gens-là se sont exposés. Je suis d'accord avec vous, bien évidemment, que le social ne peut pas remplacer le spirituel, c'est une évidence, mais il pourrait le supplanter. Alors veillons à rester dans la mission qui est d'annoncer le salut, bien évidemment, c'est ça la chose la plus importante. Aujourd'hui, il y a une crise sociale qui est énorme, il y a du chômage de masse, il y a l'histoire des migrants, on est concerné aussi à Gap, Prions, prions pour ceux qui ont besoin de trouver du réconfort, un lendemain, un avenir. Et peut-être que Dieu nous utilisera pour cela. Et peut-être que Dieu nous demandera d'ouvrir nos portes, de rajouter une assiette à table. Bien que Dieu nous permette de le faire. Que Dieu nous permette de le faire dans ce sens-là. Ah, on peut s'exposer. Et puis il y a ceux qui ont été jusqu'au risque ultime, au risque de perdre leur vie. Et je terminerai sur ces fameux compagnons de David, parce qu'ils sont assez exceptionnels. Je vous ai parlé de Othniel et Shamgar. Vous savez qui étaient ces deux hommes-là ? C'était des juges, du temps des juges. Évidemment, ils sont moins connus que Gédéon, moins connus que Samson, mais ils ont quand même fait des choses assez incroyables, tous les deux. Je vous lis, par exemple, concernant ce fameux Othniel, c'est au chapitre 3 et au verset 9, « Les enfants d'Israël, du livre des juges, les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, l'Esprit de l'Éternel fut sur lui, il devint juge en Israël, et il partit pour la guerre, et l'Éternel livra entre ses mains le roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre lui. Le pays fut en repos pendant 40 ans. » Bon, Othniel, c'est lui qui a récupéré Aksa en allant combattre des ennemis violents, donc ce n'était pas n'importe qui, mais quand même. Et l'autre, Shamgar, c'est encore surprenant et peut-être encore plus incroyable. Au verset 31, « Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf comme seule arme. » Un aiguillon, une espèce de lance, enfin, un aiguillon à bœuf, il a tué 600 adversaires. C'est pas exceptionnel, ça ? C'est exceptionnel, quand même. Ben, vous avez un verset qui parle de lui. Terminé. Mais c'est un héros, cet homme-là. C'est littéralement un héros. Et dans les héros de David, alors là, c'est encore plus incroyable. On va le lire ensemble, si vous voulez. Il y a plusieurs groupes distincts, d'ailleurs, dans ces vaillants hommes de David. C'est le dernier chapitre du deuxième livre de Samuel. Avant-dernier chapitre, pardon. Chapitre 23 de 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 23, à partir du verset 8. Vous avez trois groupes de vaillants hommes. D'ailleurs, on les appelle des vaillants hommes, pas forcément des héros, mais des vaillants hommes. 2 Samuel, chapitre 23, verset 8. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb, Bachébet, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Alors, d'après les commentateurs, il n'était pas le seul, il était le chef d'un groupe, mais c'est lui qui marchait à l'avant de sa troupe et il a levé sa lance et avec ses compagnons d'armes, ils ont éliminer 800 adversaires en une seule bataille. Après lui, Éléazar. Il était l'un des trois guerriers qui affrontèrent avec David des Philistins rassemblés pour combattre tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle restât attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Et le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, Shamma, les Philistins s'étant rassemblés à Léchi, il y avait une pièce de terre remplie de lentilles, et le peuple fuyait devant les Philistins. Shamma se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. 3. Des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adullam. Et là, on arrive à un autre groupe. Et on dira de cet autre groupe ceci, c'est qu'ils étaient vaillants. Ils ont été chercher de l'eau à la citerne de Bethléem pour David. Et je lis par exemple au verset 18, « Abishaï, frère de Joab, fils de Tseruja, était le chef des trois. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. » Et il eut du renom parmi les trois. Il était le plus considéré des trois, il fut leur chef, mais il n'égala pas les trois premiers, malgré tout. Benaja, fils de Jéhojada, rempli de valeur et célèbre par ses exploits, il frappa les deux lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Déjà, à mon avis, un jour sans neige, ça ne doit pas être facile. Un jour de neige, ouais. Il frappa le lion. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable. Ayant une lance à la main, il descendit contre lui avec un bâton. arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja. Il eut du renom parmi les trois vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les trois premiers. Et puis après, vous avez une dernière liste de 32 noms, du verset 24 jusqu'au verset 39, où il y en a encore pas mal qui sont exceptionnels. J'en ai trouvé un autre, au chapitre 21. Alors lui, c'est assez étrange ce qu'il a fait. Il s'appelait Jonathan. Je vous le lis. Il y eut une bataille à Gath, et il s'y trouva un homme de haute taille. Écoutez bien, il avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout. Vous en connaissez des gens qui ont 24 doigts orteils ? Un géant. Il jeta un défi à Israël, et Jonathan, fils de Shiméa, frère de David, le tua. Voilà, c'est tout ce qu'on dit de ce Jonathan-là. Et puis vous en avez comme ça des quantités, des quantités, des quantités, des quantités. Toute la Bible est faite de héros, Hébreux chapitre 11 et chapitre 12, en témoignent de héros comme cela. Finalement, ce sont quelques exemples parmi une foule totalement incroyable, totalement incroyable. Alors, et j'en reviens en arrière, si les hommes, on ne sait pas s'ils sont croyants ou pas, mais si sur la terre, aujourd'hui, au XXe siècle, on est capable de trouver, XXIe siècle, capable de trouver des gens de cette valeur-là, comme ça, ou des gens très intelligents, capables, comme des gens comme cela, dites-moi dans l'Église. On n'a pas aussi la possibilité de faire les choses qui glorifient l'Éternel, qui glorifient Dieu encore aujourd'hui. Frères et sœurs, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, dira l'Ecclésiaste. Je vous redis ce que je vous ai cité tout à l'heure, 1 Corinthiens 10, 31, faites tout pour la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, nous sommes appelés à briller. Alors, puisque nous sommes appelés à briller, brillons, non ? Brillons. Je crois que Dieu nous a donné ce qu'il fallait pour cela. Du plus basique au plus exposé, au plus risqué, qu'importe. L'important, c'est que l'on fasse ce que Dieu nous a permis de faire, ce que Dieu nous a commandé de faire, ce que Dieu nous a autorisé à faire, ce que Dieu a mis sur nos cœurs comme la volonté d'un service consacré, parce que les jours sont mauvais. Vous brillez comme des flambeaux dans le monde, dans un monde obscur, dans un monde qui ne va pas bien. Qu'en sera-t-il demain ? Certains se lèveront tout heureux, d'autres avec la gueule de bois, certainement. Certains seront très inquiets, d'autres seront très confiants, d'autres seront dans une espèce de vide sidéral en disant « je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas ». Eh bien, nous avons un bel espoir à faire connaître. Nous avons une belle espérance à communiquer. Nous avons une réelle opportunité de faire connaître Jésus-Christ. Que l'on s'appelle Jeanne, Suzanne, que l'on s'appelle Onésiphore, que l'on s'appelle Jonathan, que l'on s'appelle Benaja, que l'on s'appelle, vous, votre prénom, eh bien, nous pouvons servir et bénir l'Éternel et briller dans le monde. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ta bonté. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu nous as sauvés. Merci parce que tu as délivré nos cœurs. Tu nous as donné la paix, la joie. Et quel bonheur nous avons d'être à toi. Ce matin, nous sommes venus dans ce lieu pour te louer. Nous ne sommes pas venus pour nous. Nous sommes venus pour toi, nous ne sommes pas venus pour rassurer nos cœurs devant toi, nous sommes venus pour t'apporter notre offrande, notre hommage, notre louange, notre adoration. Je te supplie d'étendre ta main encore et de bénir mes bien-aimés, de bénir mes frères et sœurs, de bénir tous ceux qui auraient voulu être là et n'ont pas pu encore être là. Bénis-les, que ta parole les encourage, les fortifie, les entraîne beaucoup plus loin dans la belle expérience de l'Évangile. Merci pour ta faveur et ta grâce. Bénis la réunion tout à l'heure où nous voulons rendre ce témoignage que notre Dieu est bon. Nous voulons le dire à ceux qui seront là que Dieu est la réponse, qu'il est la solution. Alors merci de bénir encore ces moments. Tu béniras toute la semaine qui est là devant nous, tous les rendez-vous que nous avons fixés pour chacun d'entre nous et puis pour ceux qui sont malheureux et qui sont dans la détresse, qui sont malades. Merci parce que ta parole est puissante et tu vas encore agir. Que ton nom soit béni pour ta faveur et ta bonté. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Amen.